Dieu a-t-il une place importante pour vous? C'est la question qu'on peut se poser en ce début de retraite. Et si vous êtes venu faire une retraite, c'est certainement pour essayer de mettre Dieu un peu plus au centre de votre vie. Si je vous pose une autre question, est-ce que vous aimez Dieu? Là, je pense que vous allez me répondre oui, en principe. Mais si vous aimez Dieu, ça suppose que vous le connaissez. Parce qu'on aime bien que ce que l'on connaît. Or, si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu? Là, la réponse risque d'être un peu plus vague. Parce que Dieu, pour nous, parfois, est un peu difficile à saisir. Et la question qu'on peut se poser ensuite, justement, comment aimer Dieu si on ne le connaît pas? Comme vous le savez, on aime bien que ce que l'on connaît. Donc, le but de notre vie spirituelle, en général, va précisément être de rechercher Dieu. Rappelez-vous votre catéchisme. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu, et ainsi obtenir la vie éternelle. C'est la question qu'on répond en général au catéchisme. Pourquoi l'homme a été créé? Quel est le but de l'homme? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Et bien précisément, le catéchisme nous répond louer, honorer, servir Dieu, et ainsi obtenir la vie éternelle. Alors, vous voyez tout de suite que Dieu doit avoir une place importante dans notre vie. Alors, dans cette première instruction, elle est le sujet précisément est Dieu et les perfections divines. Ce qui fait que nous allons d'abord parler de Dieu, comment Dieu nous est connu, dans une première partie, et ensuite nous verrons ce qu'on appelle les attributs divins. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Il n'y a pas longtemps, vous avez dû apprendre ça dans les nouvelles, il y a une sonde spatiale qui a frôlé, à quelques centaines de milliers de kilomètres, la Pluton. Donc cette planète, vraine au fin fond, planète naine maintenant, paraît-il, dit-il, qui est au fin fond de notre système solaire. En soi, c'était un très bel exploit technique. Je sais pas, la sonde a dû mettre, 8-9 ans pour atteindre cette sonde. Donc on imagine tout le travail derrière pour envoyer ces petites sondes, le fait partir, les distances, qu'elle arrive au bon endroit pour prendre des photos, que les photos soient retransmises à la Terre. Enfin, on imagine derrière tout le travail. On est un petit peu habitué maintenant à tous ces exploits un peu techniques, comme l'autre sonde qui s'est posée sur une comète. Bon, là, elle a un peu plus de problèmes, la sonde. Elle a du mal à transmettre à la Terre. Bon, le premier exploit qui s'est fait dans les années 60, je ne sais plus la date, peut-être 1960, 61, donc il n'y a pas si longtemps que ça quand même, eh bien, l'objection, ce fameux Gargarine, qui est le premier homme donc à être monté dans une sonde et à faire le tour de la Terre. Donc c'est le premier, Gargarine le Russe, un premier homme envoyé dans l'espace faire le tour de la Terre, il est revenu sur la Terre. Première chose qu'il a dit en descendant de sa soucoupe, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Bon, vous avez Armstrong, lui, quand il est posé le pied sur la Lune, en 69, juillet 69, lui, il avait dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Gagarin, lui, dit non, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré, je suis allé au ciel, j'en suis revenu, pas vu Dieu. Alors voilà le genre d'objection qu'on peut nous faire. Dieu, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il existe? Alors, comment savons-nous que Dieu existe? Eh bien, nous le savons de deux manières. D'abord, parce qu'il nous l'a dit lui-même. C'est ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé. Il a parlé, il a dit « oui, j'existe ». Et il a appris son existence dans les révélations qu'il a faites tout d'abord à partir du premier homme, Adam et Ève, jusqu'à Jésus-Christ. Vous suffit de lire la Sainte Bible, la Sainte Écriture, et vous trouverez des passages où Dieu parle aux patriarches, aux prophètes. Donc c'est ça, on appelle cela la révélation. Dieu se révèle aux hommes, oui, j'existe. Prenons l'exemple, peut-être un des plus clairs, ou surtout très intéressant, et on en reparlera après, c'est lorsqu'il apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Donc vous avez ça, c'est le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 10 et suivants. Vous vous rappelez Moïse qui suivait ses troupeaux dans le désert du Sinaï, et puis à un moment il voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Alors évidemment, tout de suite, il est étonné, qu'est-ce qui se passe? Il va voir, et puis Dieu va lui parler, « Attention, le lieu que tu foules est un lieu saint. » Et puis il va y avoir un dialogue entre lui, entre Moïse et Dieu. Et Moïse, enfin plutôt Dieu va envoyer Moïse délivrer les Hébreux qui sont actuellement en Égypte, prisonniers, enfin prisonniers, disons, qui commencent à être maltraités en Égypte, et Dieu va les délivrer. Donc il va envoyer Moïse. Et Moïse va poser une question. « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici le signe que tu montreras que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc vous irez sur le Sinaï offrir un sacrifice. Alors Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Vous voyez, on voit Dieu qui parle à Moïse, et en plus qui va lui donner son nom, « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui est. » Donc, clairement, Dieu s'est révélé. Ou alors, dans l'Évangile, on voit aussi notre Seigneur révélant la très sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En parlant de son Père, ensuite, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Donc, on voit bien aussi notre Seigneur révélant l'existence de Dieu et de la très sainte Trinité. Donc, pour nous, c'est la foi qui va nous faire connaître l'existence de Dieu. J'ai la foi, donc la foi me dit « oui, Dieu existe ». La foi, qui est cette vertu, hein, que nous avons reçue, je pense, pour la plupart d'entre nous, évidemment, le jour de notre baptême, et qui nous fait croire tout ce que Dieu nous a révélé. C'est la lumière qui illumine notre intelligence et qui va me dire « oui, ce que Dieu m'a dit est vrai parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper ». Ça, c'est la foi. Et donc, la foi me dit « oui, Dieu existe bien ». Alors la question maintenant, c'est, et ceux qui n'ont pas la foi? Justement, nous, nous disons, nous avons la foi, nous savons que Dieu existe, très bien. Et ceux qui n'ont pas la foi, est-ce qu'ils peuvent connaître l'existence de Dieu? Alors vous avez Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, dans une de ses épîtres, l'épître aux Romains, qui va effectivement donner la réponse, tout au début, chapitre 1, verset 19. Saint Paul dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Donc il parle des païens. Il dit, bah oui, pour les païens, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc, vous voyez, on va en reparler. Ça veut dire que Saint Paul nous dit, même les païens peuvent connaître l'existence de Dieu à partir des œuvres de Dieu. Et donc, des œuvres de Dieu, on peut remonter à Dieu. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils sont inexcusables. Puisque, je continue, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur, inintelligent, s'étant ténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une représentation simple image d'homme corruptible, d'oiseau, de quadrupède ou de reptile. Vous voyez, saint Paul dit, ces païens sont inexcusables parce qu'ils auraient pu connaître l'existence du vrai Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas fait marcher leur intelligence et alors ils ont transformé Dieu dans des statues qui représentent des serpents, des oiseaux, enfin le soleil, enfin tous les idoles des païens. Donc vous voyez, saint Paul dit, eh bien oui, les païens sont inexcusables parce qu'ils peuvent connaître l'existence de Dieu. Alors tout ça pour dire la deuxième raison de connaître l'existence de Dieu, la deuxième façon, pardon, de connaître l'existence de Dieu, c'est par notre raison précisément, par notre intelligence. Et ça, c'est l'Église aussi qui nous le dit. Il est de foi, donc ça veut dire que Dieu nous l'a révélé aussi, que nous pouvons connaître l'existence de Dieu par la raison à la vue des choses créées. C'est-à-dire que ce que nous voyons dans la nature, eh bien, va nous faire remonter vers notre Créateur. C'est exactement très simple. Vous voyez dans de la boue des traces de chiens, par exemple, des pattes de chiens. Eh bien, automatiquement, vous dites, il y a un chien qui est passé par là. Si la trace est fraîche, vous dites, le chien, en plus, il n'est pas loin. Et puis là, je l'entends même aboyer. Et puis il vient sur moi en train de courir. Alors là, on commence à courir aussi. Donc vous voyez, on a des traces. Ah oui, il y a un chien qui est là et en plus il arrive. Bon, eh bien pour Dieu, on voit les œuvres de Dieu, les créatures, et ça doit nous monter vers notre Créateur. Donc par notre raison, nous pouvons connaître l'existence de Dieu. Vous avez notre grand théologien, saint Thomas d'Aquin, qui a résumé, si vous voulez, cinq façons, il appelle ça des preuves métaphysiques, de l'existence de Dieu. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement, on peut, un philosophe, donc même quelqu'un qui n'a pas la foi, peut arriver à prouver l'existence de Dieu. Par exemple, on part du constat que toutes les choses sont en mouvement. Dans le monde, quand vous regardez, tout est en mouvement. Et alors, je passe un peu le raisonnement, mais on arrive à la conclusion qu'il faut admettre un premier moteur immobile qui meut les autres. Et ce premier moteur immobile, c'est ce qu'on appelle Dieu, tout simplement. Donc, saint Thomas dit, Dieu, premier moteur immobile. Ou alors, il va dire, Dieu est la cause de tous les êtres. Vous voyez, des effets que l'on voit, on remonte à une cause. Effectivement, quand on voit qu'une action se produit, on va toujours en chercher la cause. Pourquoi ? Eh bien ça nous fait remonter à la cause première. Et la cause première, c'est Dieu. Ou alors, une autre voie, ce qu'on appelle, on voit que dans le monde, il y a des êtres qui sont contingents, c'est-à-dire qui peuvent ne pas être. À un moment, ils n'existaient pas, donc ils ne sont pas nécessaires. Et vous voyez, au contraire, des êtres contingents vont supposer qu'il existe un être nécessaire qui leur a donné l'existence. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Donc, on va remonter à l'être nécessaire qui est Dieu, qui a lui donné l'existence à des êtres contingents qui peuvent ne pas être, comme nous. À un moment, nous n'existions pas et le monde tournait très bien sans nous. Nous sommes des êtres contingents. Nous ne sommes pas nécessaires du tout. Donc vous voyez, ainsi on remonte à l'être nécessaire qui est Dieu. Une autre voie, je passe rapidement, c'est la perfection. Dieu est l'être parfait. Vous voyez, quand on regarde dans le monde, on voit des choses qui sont belles, si vous voulez, des choses bien, mais on ne trouve pas la perfection. Donc c'est pareil, toutes ces choses belles que nous voyons, relativement parfaites, va supposer un être parfait qui leur a donné cette perfection qu'on voit. Donc Dieu est l'être parfait. Vous voyez, très rapidement, résumé, comment on peut monter à Dieu. Et puis, la dernière preuve, peut-être un peu plus facile à comprendre, qui est tirée de l'ordre du monde, c'est ce qu'on appelle Dieu qui est l'ordonnateur universel, qui a mis l'ordre dans le monde. Et là, c'est une preuve relativement simple. Vous voyez, on peut faire ce raisonnement. Tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Effectivement, vous-même, pour expliquer cette première donnée, vous dites à vos enfants, va ranger ta chambre. Qui ne l'a pas entendu ça? Tous. Je pense que nos parents nous ont tous dit un jour ou l'autre, va ranger ta chambre. Si nos parents nous disent, va ranger ta chambre, ils supposent quoi? Ils supposent que nous sommes intelligents. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque chose et la mettre à sa bonne place. Voilà, bah on va, je sais pas quoi, oui, ranger sa jupe dans l'armoire. Voilà, on va mettre les chaussures à un autre endroit, etc. On va faire son lit. Vous voyez, on met de l'ordre. Ça suppose une cause intelligente. A contrario, peut-être avez-vous des animaux domestiques. Est-ce que vous avez un chien? Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que vous allez dire à votre chien, va ranger ta niche? Ben, c'est absurde. Le chien va comprendre, va dans la niche, oui, là il va vous obéir parce qu'il sait que si il n'y va pas, il va recevoir un coup de bâton. Donc là il comprend niche, d'accord. Mais ranger sa niche, ça n'a aucun sens pour lui. Parce que précisément, ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Vous voyez, je crois que c'est facile. Donc tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Or, il y a dans le monde un ordre admirable. Alors là, vous regardez. Il suffit de regarder dans le monde l'ordre qui existe. Regardez dans l'ordre de la nature. Alors après, c'est chacune d'entre vous, ça dépend ce que vous préférez. Si vous aimez un beau ciel étoilé, regardez l'ordre qui existe. Imaginez qu'il n'y ait pas d'ordre dans les étoiles. Et ça serait le chaos complet, et puis il y aurait, ça serait vraiment la fin du monde. Hein. Regardez toutes ces étoiles, toutes ces planètes, etc. Il y a quand même un ordre admirable. Bon, si vous préférez les fleurs, regardez les fleurs. Regardez comment toutes ces roses qui vivent qu'un jour, hein, n'est-ce pas? Eh bien, comment elle, la beauté d'une rose, par exemple. Quand vous voyez comment elle sort, comment toutes ces... Il existe un ordre, c'est admirable. Ou alors, si vous aimez les petits oiseaux, regardez les oiseaux, comment ils font leur nid. Comment une hirondelle, comment elles vont prendre leur brin d'herbe, comment elles vont arriver à mettre ça. Mais il y a un ordre admirable dans le monde. Donc on constate, oui, c'est vrai, il y a un ordre admirable. Donc conclusion, l'ordre du monde suppose une cause intelligente. Et cette cause intelligente, c'est Dieu. Voilà. Vous voyez, ça, il n'y a pas en soi, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour comprendre. Donc par notre raison, on peut remonter à l'existence de Dieu. Et vous avez cette... Celui qui n'est pas un père de l'Église, loin de là, et qui le disait, Voltaire, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Eh oui. Vous voyez, même Voltaire comparait l'univers à une horloge. Et comme toute horloge, une montre suppose un horloger, eh bien pareil, vu le monde, la façon dont il existe, eh bien ça suppose quelqu'un qui l'a fait, et donc c'est Dieu. Si tout cela vous semble un peu compliqué, c'est vrai qu'il suffit d'aller se promener, alors là aussi chacun qui préfère, ou si vous aimez la mer, allez vous promener le long d'une plage, en regardant la mer, vous savez, le point d'infini où la mer et le ciel semblent se confondre, et cela vous donne tout de suite une idée d'infini. Ah oui, l'infini. Donc tout de suite, ça nous pousse à méditer, à remonter vers le Créateur. Ou si vous préférez paysage des montagnes, bah, allez vous promener en montagne et puis vous allez voir ces sommets, ces montagnes imposantes. Là aussi, on voit la majesté de Dieu. Tout de suite, vous voyez, vous dites, c'est pas, ça s'est pas fait tout seul, c'est pas possible. Donc tout ça pour nous montrer l'existence de Dieu. Alors si Dieu existe, après avoir établi que Dieu existe, ben maintenant il faut voir ce qu'il est. Donc quelles sont ses perfections divines, ce qu'on appelle aussi ses attributs divins, perfections divines. Je vous cite un passage de notre fondateur, Mgr Lefebvre, dans son livre Itinéraire spirituel, donc son dernier livre, un peu son testament. Voilà ce qu'il nous dit. Donc on connaît Dieu. Notre connaissance de Dieu est bien imparfaite ici-bas, et elle le sera encore au ciel, car il faudrait être Dieu pour le connaître dans toute sa perfection et son être. C'est le cas des trois personnes divines. Une approche d'une meilleure connaissance de Dieu consiste à nier de lui toutes les limites des créatures, qui nous servent d'ailleurs à prouver l'existence de Dieu. Vous voyez, les créatures nous permettent de remonter au Créateur. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu ? Bien, on voit les créatures, on va regarder les créatures, et puis on va nier les limites que l'on voit dans les créatures, pour nous dire, ben voilà, le Créateur est comme ça. Ainsi donc, de Dieu, nous nions toute imperfection, c'est-à-dire Dieu est parfait. Oui. Nous nions toute limite, ça veut dire il est infini. Nous nions toute limite dans l'espace, ça veut dire il est partout, omniprésent. Nous nions toute limite dans le temps, il est éternel. Nous nions toute mutation, Dieu est immuable. Donc voilà comment on va essayer de connaître Dieu. On va nier les limites que nous voyons dans les créatures. Et là, un autre auteur spirituel, enfin un auteur plutôt, oui, qui a le Père Sineux, certaines d'entre vous doivent connaître, qui a fait une initiation à la théologie de saint Thomas. Donc, si vous voulez éviter de lire toute la somme théologique, vous pouvez lire le Père Sineux dans son livre, et ça, c'est un bon résumé bien développé quand même de la somme. Voilà ce qu'il dit à ce sujet. Dieu existe. Cette première vérité ne fait qu'enflammer notre désir de connaître cet être suprême duquel tout dépend et dont nous soupçonnons l'éblouissante beauté. Saint Thomas, enfant surpris dans une sorte d'extase en face de la nature ravissante, posait tout à coup à son maître la question « Qu'est-ce que Dieu ?» Vous voyez, saint Thomas, il regardait la nature, les fleurs, les oiseaux, tout ce que vous voulez, les arbres, etc. Et pris par une extase, c'est tellement beau, mais qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que doit être Dieu ? Si on voit de si belles choses sur terre, mais qu'est-ce que ça doit être Dieu ? Dieu lui-même répond, et nous l'avons lu dans la Sainte Écriture, « Je suis celui qui suis, celui qui est. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir de génération en génération. » La raison humaine, en démontrant l'existence de Dieu, découvre en lui l'être subsistant par lui-même. Premier moteur immobile, cause première que rien ne produit ni ne modifie, être nécessaire qui ne peut pas ne pas exister, être parfait qui ne connaît aucune limitation, ordonnateur suprême qui ne dépend d'aucun autre, Dieu est au-dessus de tout être. Il ne rentre dans aucune catégorie, il n'appartient à aucun genre. Il constitue un être absolument à part, non seulement par sa nature supérieure, mais encore par sa manière d'exister et de subsister, manière unique et transcendante. Alors pour expliquer un peu plus cela, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, voyons d'abord cet attribut, cette propriété essentielle de Dieu, comme vient de le dire le Père Sineux, c'est que Dieu est l'être par lui-même. Alors là, les philosophes donnent un nom peut-être un peu savant, parce qu'on ne le trouve pas en français courant, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle l'acéité, l'apostrophe, A-S-E-I-T-E, acéité. Ça vient du latin A-C, c'est-à-dire que Dieu est l'être qui existe par lui-même, ens A-C. Vous qui êtes de brillantes latinistes, vous savez tout de suite ce que ça veut dire, ens A-C, c'est-à-dire l'être par lui-même. Ça veut dire qu'il a reçu l'être non pas de quelqu'un d'autre, mais qu'il le possède par lui-même. Et ça, c'est une propriété essentielle. Propriété donc qui appartient à Dieu seul d'exister par soi et non par un autre. Il a la plénitude de l'être. Contrairement aux créatures, nous-mêmes, qui tenons notre existence de Dieu, et donc nous sommes des êtres imparfaits. Et c'est toute la différence entre Dieu et nous. Nous, nous sommes ens ab alio, c'est-à-dire qu'on a l'existence par quelqu'un d'autre. On a reçu notre être et notre existence de quelqu'un d'autre. Alors que lui, non, il le tient de lui-même. Cela est dans le nom qu'il donne à Moïse. Je suis celui qui suis, celui qui est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis celui qui existe, point. Je suis. Ça, c'est mon nom, c'est moi, je suis. Et est-ce que nous pouvons dire « je suis » ? Non. J'existe maintenant, oui, mais mon être, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre. Bien sûr, mes parents ont coopéré à cet acte créateur de Dieu qui m'a donné l'existence. Mais il y a X années, je n'existais pas. Or que Dieu, lui, de toute éternité, il est, tout simplement. Et cette réponse, ce nom que Dieu donne à Moïse, qui explique bien ce qu'il est, notre Seigneur l'a repris dans l'Évangile, dans un autre épisode, où justement notre Seigneur parle aux pharisiens en disant, en parlant de son père, vous avez l'épisode, je vais le dire plus précisément, c'est Saint Jean chapitre 8, au verset 55 et suivant. Très beau dialogue entre les pharisiens et notre Seigneur. Et là, notre Seigneur va affirmer sa divinité. Si je me glorifie moi-même, donc notre Seigneur parle aux pharisiens, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Évidemment. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Là, notre Seigneur dit bien, Abraham attendait ce Messie. Il a vu, moi, le Messie qui allait venir. Il s'est réjoui. Donc là, notre Seigneur dit clairement, je suis le Messie. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Réaction des Juifs, ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Pourquoi les Juifs veulent lapider Jésus à ce moment-là? Parce que ce que vient dire Jésus, ça veut dire je suis Dieu. C'est-à-dire, il prend le nom je suis, c'est-à-dire même qu'avant Abraham exista, je suis. Et donc les pharisiens prennent des pierres pour le jeter parce que pour eux c'est un blasphème. Parce que Jésus qui est homme se fait Dieu. Et pourtant, on en parlera aussi, notre Seigneur a bien prouvé qu'il est Dieu par tous ses miracles, précisément. Mais voyez, notre Seigneur reprend à lui-même ce titre de Dieu, je suis. Et là, Monseigneur Lefebvre, pour reprendre aussi, il répète cet épisode. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. On n'admirera jamais assez ces réponses lumineuses, qui correspondent d'ailleurs aux conclusions de notre raison. Dieu est. Il est ens assez, l'être par lui-même. Tous les autres êtres sont ab alio, n'ont pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ces affirmations simples sont une source de méditation et de sanctification inépuisables. Que ce soit le regard sur Dieu qui s'épuise dans l'infini, que ce soit la constatation des rapports de la créature au Créateur, ou la vue du néant de la créature, nous sommes en face de ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond et de plus mystérieux en Dieu et en nous. Effectivement. Tout simplement se dire, Dieu est et moi je ne suis rien. J'ai tout reçu de Dieu. Donc c'est quelque chose, j'allais dire, de formidable. Ça veut dire, mon être, donc, n'est qu'un être d'emprunt. Moi, je suis incapable de subsister par moi-même. Et donc, conclusion, je dois reconnaître mon absolue dépendance de Dieu et de l'être divin. Et ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion qu'aujourd'hui, on n'aime pas, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de liberté, d'indépendance. Mais en réalité, nous sommes dépendants totalement de Dieu. Vous voyez, de manière un peu familière, si on dit, ah ben, si Dieu arrêtait de penser à moi, je ne serais même plus un tas de poussière, je retournerais dans le néant. C'est-à-dire que je n'existerais plus. C'est-à-dire que si Dieu ne me maintenait pas dans l'existence, dans l'être, je serais de nouveau dans le néant. Dieu m'a donné l'être. Donc, ce qui fait un jour, j'ai existé. Donc, en coopération avec mes parents. Mais c'est Dieu qui a créé mon âme. Donc, il m'a donné l'être. Mais en plus, il m'a donné l'être, mais il me maintient dans l'être. Ce qui fait que s'il ne pense plus à moi, je disparais totalement. Donc, vous voyez, en disant ça, on se dit, ben, donc je suis complètement dépendant de Dieu. Et c'est vrai, totalement dépendant de Dieu. Vous avez un petit livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Amour et silence par un chartreux. Je sais pas, il est peut-être ici sur la table ou à votre disposition. C'est un petit livre. Lisez-le, c'est vraiment de beaux sujets de méditation. Voilà ce qu'il dit là-dessus. Il ne suffit pas que Dieu gouverne la créature et qu'il dirige son activité. Étant le principe unique et souverain de la totalité des êtres, il faut qu'il les soutienne dans l'existence, qu'il continue à chaque instant de leur donner tout ce qu'ils sont. Si l'agir divin cessait une seconde, l'univers et nous-mêmes, nous nous évanouirions comme un rêve. Lorsqu'on a compris la nécessité de l'acte divin, conservant ainsi les choses après les avoir créées, on trouve au plus petit objet une grandeur singulière, puisque c'est le Tout-Puissant et lui seul qui, présent dans cet être infime, le maintient hors du néant. L'ombre est la plus faible des réalités, semble-t-il. Notre ombre n'est rien en comparaison de nous-mêmes. Évidemment, quand vous voyez votre ombre, c'est rien par rapport à vous. Mais en comparaison de Dieu présent en nous, nous avons moins de réalité encore. Auprès de la réalité divine, nous ne sommes pas même des ombres. Toutes là, les conclusions qu'on peut en tirer. Et ça, Dieu le disait à Sainte Catherine de Sienne, qui avait ses apparitions. Eh bien, Dieu lui disait, sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis? Tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui est. Ah oui, belle leçon d'humilité et d'amour de Dieu. En disant, ben oui, je dépends de Dieu, totalement de Dieu. Alors parfois, il faut y penser. Voyez, par exemple, le matin, à peine réveillé, quand vous allez vous retrouver face à vous-même, dans un objet qu'on appelle miroir, quand vous allez peut-être avoir des tentations qui vont vous dire, Ô miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. Eh bien, à ce moment-là, dans ces tentations, dites-vous, eh bien, qu'est-ce qu'a dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne? Je suis celui qui n'est pas. Je suis celle qui n'est pas. Ah oui, dites-vous ça, je suis celle qui n'est pas. Et Dieu, lui, est celui qui est. Et là, on se remet devant la réalité. Ah oui. Donc, vous voyez, cette propriété, elle est essentielle. Et c'est ce qui nous maintient vraiment dans l'humilité par rapport à Dieu. Moi, je dépends totalement de Dieu. Et non seulement parce qu'il m'a créé un jour, mais en plus parce qu'il permet que je suis vive encore dans l'existence. Alors si nous voyons d'autres, un petit peu d'autres attributs relatifs à l'être de Dieu, à Dieu lui-même. Donc qu'est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, pour essayer de connaître Dieu comme il est parfait, on va nier donc les imperfections. Et on va arriver à trouver, par exemple, que Dieu est une substance tout à fait simple. On va parler de la simplicité divine. C'est-à-dire que Dieu est pur esprit. Il n'y a aucune composition en lui. Dieu est parfaitement simple. Et ça, notre Seigneur Jésus-Christ le dit à la Samaritaine. Si vous voulez lire le texte, c'est dans le livre, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oui, Dieu est pur esprit. Alors pour nous, la conséquence de cette simplicité divine, eh bien c'est que nous allons devoir nous simplifier, nous aussi. Souvent, nous sommes un peu compliqués. Nous nous perdons dans mille choses. Eh bien, il va falloir chercher à se simplifier, c'est-à-dire à revenir vers l'essentiel, à revenir vers Dieu. Et c'est d'ailleurs remarquable, hein, vous avez certainement lu des livres de saints, de saintes, et souvent on voit ces saints parfaitement simples. C'est-à-dire Souvent, une simple parole de leur part nous montre des réalités sublimes, parce qu'ils ont réussi à se simplifier. Et ça aussi, je crois, c'est une belle leçon pour nous. Pratiquer cette simplicité, cette pureté d'intention qui va nous faire tendre directement à Dieu. On reste simple, sans retour désordonné sur nous-mêmes. Donc là aussi, ça peut être pour vous un sujet de méditation, cette simplicité divine. Un autre attribut, on appelle l'immutabilité. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. D'ailleurs, il le dit au prophète Malachie, au chapitre 3, verset 6, Je suis le Seigneur et je ne change pas. En effet, Dieu ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire changer? Changer, ça veut dire acquérir quelque chose qu'on n'a pas ou perdre quelque chose que l'on a. Donc si Dieu devait acquérir quelque chose qu'il n'a pas, ça veut dire qu'il n'est pas infini. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. C'est pour ça, Dieu n'est sujet à aucun changement. Dieu ne peut pas changer. C'est les hommes qui changent. Nous sommes sujets à changement. Eh bien, précisément, la conséquence de voir ce Dieu qui ne peut pas changer, donc, vous voyez tout de suite une conséquence très pratique, c'est que la doctrine qu'il a révélée, donc tout ce qui s'est révélé, tout ce qu'il a dit sur lui-même, bien ça ne peut pas changer. Vous voyez, cette révélation qu'il a donnée dans l'Ancien Testament à tous ses prophètes, ensuite à Jésus-Christ, qu'il a transmis tout ça à ses apôtres, et qui se transmet cette révélation, déjà, elle ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas faire en sorte que maintenant la Trinité, ça n'existe plus. Maintenant, il y a quatre personnes dans la Trinité. Ben non, celui qui commence à vous enseigner ça, il y a une erreur. Donc, voyez, toute cette révélation de Dieu que nous avons reçue par l'Église, elle ne peut pas changer. Donc, déjà, quelqu'un qui va vous changer une vérité de foi, ben là, vous dites, ah, stop, ça ne vient pas de Dieu. Parce que précisément, Dieu est immuable. Donc, ce qui fait que s'asseoir ou s'en tenir aux principes révélés par Dieu, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Par contre, ceux qui changent cette révélation de Dieu, alors là, eux, évidemment, peuvent se tromper. Vous voyez toutes les conséquences qu'on peut en tirer. On ne les porte pas maintenant, les conséquences, mais déjà, quand on voit les principes, on voit cette fermeté, c'est déjà cette solidité plutôt de cette révélation de Dieu, parce que Dieu, lui, ne peut pas changer. Ce qu'il nous a révélé ne peut pas changer. Dieu est immuable. Donc pour nous, eh bien, cette immutabilité nous aide à pratiquer un petit peu ce cadre nécessaire à l'union intime et durable avec Dieu. Vous voyez, malgré toutes les vicissitudes humaines, tout ce monde qui ne fait que changer, eh bien, essayons de revenir, de méditer cette immutabilité divine. Et ça va nous aider à être stable dans cette union à Dieu. Un autre attribut divin qui peut nous permettre de mieux connaître Dieu aussi, et qui souvent nous donne le vertige, c'est l'éternité. L'éternité divine. Nous avons tiré du livre de l'Apocalypse, hein, de Saint Jean, cette phrase que le prêtre reprend lors de la vigile pascale, lors de la bénédiction du cierge pascal, bénédiction de la croix et puis des années. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui sera. C'est-à-dire, ça veut dire je suis éternel, tout simplement. Bien, cette éternité divine découle de l'immutabilité. En effet, ce qui est immuable n'a pas de succession. Donc, par conséquent, il n'y a pas de commencement et de fin. Au contraire, le temps, lui, c'est une succession de mouvements. C'est de mouvements successifs. Ça, c'est le temps. Eh bien, dans l'éternité, il n'y a plus mouvements successifs. Dieu possède toute sa vie dans un présent permanent. C'est l'éternité. Je suis. Vous voyez, quand il dit, il se dit, je suis. C'est l'unique instant de l'éternité. Nous avons du mal à comprendre parce qu'effectivement, pour nous, il y a un passé et un futur. Eh bien, en Dieu, non. C'est l'éternité. Alors là, vous voyez, cette éternité, en méditant sur cette éternité divine, Eh bien, nous détacher de tout ce qui passe, hein, en nous rappelant que tout ce qui n'est pas éternel n'est rien, parce que ça va disparaître. Et c'est cette manière-là, la petite anecdote, que Saint Ignace a converti Saint François-Xavier. Vous voyez, Saint Ignace qui était monté à Paris, Ignace de Loyola, et puis se retrouvait dans la chambre d'un étudiant qui s'appelait François-Xavier. Donc lui, François, était étudiant à la Sorbonne à Paris. Et évidemment, comme étudiant, ben, il pensait à ses études, et puis après ses études, à une situation, et puis etc. Et Saint Ignace, pour essayer de lui faire réfléchir, disait, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, après, j'aurai mes études, et après, une situation, et après. Après, une situation, ben, je vais me marier, j'aurai des enfants, et après. Ben, après, j'aurai une belle propriété, et après. Ben, ça suffit, qu'est-ce que tu... etc., etc. Quid ad aeternitatem? Qu'est-ce que tout cela par rapport à l'éternité? Et là, à un moment, François-Xavier dit, stop, ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui est le plus important? Ben, l'éternité. Et ça va être pour lui l'occasion d'une conversion. Donc, vous voyez, là aussi, pour nous, méditer l'éternité peut permettre peut-être de redonner à notre vie une autre orientation. On va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tout ça, qu'est-ce que c'est utile aller par rapport à l'éternité. Donc voilà aussi, Dieu est éternel. Un autre attribut qui peut nous aider aussi, et qui nous aide souvent dans la vie spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'immensité divine. C'est-à-dire que Dieu est partout, il n'est pas limité par un lieu. Comme on dit, il est substantiellement en toute chose. Dieu est partout. Comme nous dit saint Paul dans son discours aux Athéniens, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui, Dieu est partout. Son immensité nous enveloppe, nous pénètre. Et c'est ainsi le fondement de cet exercice de la présence de Dieu. Vous voyez, se dire que Dieu est partout facilite cet exercice de la présence de Dieu. Dieu est partout. Et vous avez un très beau psaume que les prêtres disent au bréviaire, à l'office des vêpres le vendredi, c'est le psaume 138. Ou le psaume de David. Donc David médite, chante cette présence de Dieu partout. Seigneur, vous me sondez et vous me connaissez. Que je me lève ou que je m'assoie, vous le savez. Vous percez de loin mes pensées. Que je marche ou que je me couche, vous le savez, mes chemins vous sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, vous la connaissez tout entière. Où irai-je loin de votre esprit? Où fuirai-je loin de votre face? Si j'escalade les cieux, si je monte au ciel, vous êtes là. Si je descends aux enfers, vous êtes là. Donc, les enfers, c'était les limbes, ce qu'on appelle les limbes, donc ce que les anciens appellent les enfers. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer, même là, votre main me conduit, votre droite me saisit. Etc. Donc, vous voyez, très beau psaume qui parle de cette présence universelle de Dieu. Dieu est partout. Vous savez, je reviens à ce chartreux dont je vous parlais tout à l'heure, dans Amour et silence. Là aussi, il dit de belles choses. Dieu est partout. Cette vérité si simple, nous l'oublions trop. Elle pourrait cependant, si nous y pensions davantage, donner une orientation nouvelle à notre vie. Nous nous fatiguons quelquefois l'imagination pour nous représenter un Dieu lointain, et notre prière en souffre. Dieu est esprit. Esprit qui n'est pas limité en un lieu, mais qui pénètre toute chose. Aussi les vrais adorateurs adorent-ils Dieu en esprit et en vérité. Au début de notre vie spirituelle, nous commencerons par ouvrir les yeux à cette grande vérité. Le résultat sera merveilleux si nous pouvons arriver à faire vivre en nous cette pensée de la présence immédiate et universelle de Dieu. La raison, antérieurement même à toute révélation surnaturelle, nous dit que Dieu nous connaît, nous voit parfaitement et sans cesse, car il connaît et voit toutes choses. Dieu ne nous attaque pas seulement d'un simple regard, mais il commande et dirige tout ce que nous faisons. C'est lui qui nous donne de vouloir aussi bien que de réaliser. S'il n'était pas présent en moi, je ne serais même pas capable de remuer le petit doigt. Donc pensez à cette présence de Dieu partout, universelle. Ensuite, on peut parler de la bonté de Dieu aussi. La bonté est cette disposition du bien qui le porte à se répandre et en même temps le rend attrayant. Tout être est bon dans la mesure où il est parfait, car dans la mesure de sa perfection, il est apte à aimer et à être aimé. Donc, plus un être est parfait, plus il est bon. Et la bonté de Dieu est sans limite, parce que son être est infini et parfait. Évidemment, quand on voit quelque chose de parfait, on est poussé à l'aimer. Et plus il est parfait, plus nous allons aimer cette chose. Eh bien, comme Dieu est infini, il est infiniment parfait, eh bien forcément Dieu est la bonté même. Il peut donner à profusion sans crainte de s'épuiser. Il est souverainement aimable parce qu'il possède de quoi combler les aspirations de toute créature. Effectivement, et vous avez cette belle phrase qu'il dit dans le prophète Isaïe, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, verset 15. Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle a porté dans son sein ? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne vous oublierai pas, dit le Seigneur. Vous, mesdames, vous qui êtes mères, qui avez des enfants, vous le savez très bien. Une mère ne peut pas oublier son enfant. Ça serait vraiment contre nature. Eh bien, vous voyez, Dieu dit, même si par hasard une mère arrivait à oublier son enfant, eh bien, moi, je ne vous oublierai pas. Ça montre cette bonté de Dieu, bonté vis-à-vis de ses créatures. Ensuite, mais le temps passe, donc je ne pourrais pas tout dire. Vous avez aussi d'autres attributs relatifs aux opérations divines, comme on dit. Par exemple, la justice, la miséricorde de Dieu. La justice consiste à accorder à chacun ce qui lui est dû. Dieu ne doit rien à personne. Il ne saurait donc jamais être injuste. Et là, attention, parce qu'on dit « oui, Dieu est injuste ». Non, Dieu ne peut pas être injuste. Parce qu'il ne doit rien à personne. Alors ensuite, qu'il donne plus à l'un ou à l'autre, ça dépend de Dieu. C'est lui qui a tous les biens. Mais en soi, il ne peut pas être injuste. Il répartit à son gré ses dons entre ses diverses créatures sans que jamais aucune ait le droit d'exiger une supériorité ni de se plaindre de l'inégalité. Mais quand sa libéralité a gratifié les créatures, à celles qui, plus favorisées, ont reçu des moyens d'action qu'elles peuvent librement mettre en œuvre et des ressources qu'elles sont susceptibles de faire valoir, Dieu accorde en outre une sanction proportionnelle à leur mérite. En cela, Dieu agit avec équité, il est souverainement juste. Vous voyez, effectivement, nous avons tous reçu de manière totalement inégale. L'égalité, la seule qui existe, c'est que nous sommes des créatures vis-à-vis de Dieu. Ça, oui, nous sommes tous des créatures. Là, nous sommes égaux. Mais ensuite, par rapport aux dons que nous avons reçus comme créatures, alors là, nous sommes tous inégaux, totalement inégaux. Certains ont reçu plus que d'autres, c'est évident. Est-ce que c'est injuste ? Non. Non, parce que Dieu ne doit rien à personne. Alors, en revanche, et c'est là Dieu agit avec justice et équité, à celui qui l'a plus reçu, il sera plus demandé. À ça, oui. Ça, c'est certain. Et puis, la miséricorde en Dieu est inséparable de sa justice, forme la plus délicate de sa justice, la miséricorde. Dieu va se pencher juste à sa créature pour tirer du bien du mal. En ce sens, Dieu est infiniment miséricordieux et c'est l'attribut de Dieu qui manifeste mieux sa bonté et sa puissance, parce qu'il tire le bien du mal. Et la justice trouve dans sa miséricorde son achèvement. Donc là aussi, justice, miséricorde de Dieu, beaucoup d'attributs que nous pourrions méditer. Alors en conclusion, eh bien pour acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu, cette connaissance qui va se transformer en amour de Dieu, comment faire ? Bien d'abord, étudier les dogmes chrétiens, donc savoir revoir notre catéchisme par exemple, faire des lectures spirituelles, un petit peu pour mieux connaître Dieu. Ensuite, la méditation, ou l'oraison, On vous en parlera évidemment. Donc méditez sur ces attributs divins. Je vous en ai donné juste quelques énumérations. Il y en a qui peuvent vous toucher plus que l'autre. C'est-à-dire, je pense, le fait que se dire je tiens tout de Dieu, bah, effectivement, je dépends totalement de Dieu. Donc ça va pousser à notre humilité ou l'immensité, etc. Donc méditez sur ces attributs divins. Et puis, je pense aussi l'habitude de voir Dieu en toutes choses. C'est-à-dire l'exercice de la présence de Dieu. Dieu me voit. Je pense rien que cela. Si ce n'est ça, vous ne reteniez que ça de votre retraite, Dieu me voit. Eh bien, ça peut tout changer. Voyez, quand on était enfant, quand on cherche à faire des bêtises, la première chose qu'on essaie de faire, c'est ne pas être vu des parents. Je sais pas quoi, vous êtes tous arrivés à tout le monde, je sais pas quoi, de vouloir manger de la confiture de maman qui vient d'être faite, on est attiré par la bonne confiture, on est chez de ah, la maman n'est pas là, elle n'est pas dans la cuisine, bon, très bien, j'en profite, je monte sur un tabouret, je prends le pot, hop, et puis je mange. Donc on essaie de ne pas être vu, évidemment. Eh bien non, pour Dieu, Dieu me voit. Eh bien si on dit cela, Dieu me voit, ça peut tout changer. Peut-être il y a des choses à rectifier dans notre vie, oui, c'est vrai, parce que ben, on a oublié un peu l'existence de Dieu. Et des choses qui marquent. Vous avez peut-être fait le catéchisme à vos enfants avec la miche de pain. Et vous avez dans la miche de pain cette phrase qui m'avait marqué. C'est pour ça que je l'ai retenue, vous voyez. Ça remonte à un certain nombre d'années. Et pourtant, ça marque. Effectivement, je pense que les enfants sont marqués par ça. C'est tout simplement, je crois que c'est dans sa deuxième année. C'est là où vous prouvez l'existence de Dieu. Justement, Dieu est partout. Et dans la miche de pain, vous avez une page qui est quasiment toute noire. Et c'est quoi? Et bien, ils vous disent, une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Alors que vous êtes là, bah, oui, bah oui. Et vous, l'enfant, vous dites, mais comment c'est possible? Vous allez prendre une lampe de poche. Vous dites, ben, non, Dieu, pas besoin de lampe de poche, il la voit. Ah oui, Dieu me voit, Dieu me voit. Ben, oui, ça marque. Ça marque. Alors essayons en pratique d'utiliser les créatures pour remonter à Dieu, un beau paysage, que Dieu aussi est près de ceux qui le prient, hein, qu'il est la Sainte Trinité aussi, il est présent en nous, la Sainte Trinité, et donc agir ensuite en fonction de cette présence de Dieu. Et tout cela va nous produire la joie. Et je termine précisément par cette citation d'un docteur spirituel, aussi dont vous parlez sans doute, Dom Marmion, qui dit, eh bien, en trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini, mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. C'est pour vous, Seigneur, que vous nous avez créés, et notre cœur vit dans le trouble jusqu'au jour où il trouve en vous son repos. Ça, c'est saint Augustin au début de ses confessions, du livre de ses confessions. C'est pourquoi, quand nous cherchons quelque chose en dehors de Dieu ou de sa volonté, nous ne trouvons pas le bonheur stable et parfait. Donc, si nous voulons être heureux, si nous voulons avoir cette joie, eh bien, il nous faut trouver Dieu, il nous faut rechercher Dieu, et Dieu ensuite nous procurera cette joie. Donc, profitez bien de cette retraite, précisément, pour essayer de vous remettre devant Dieu, de revoir ces grandes vérités. Et qu'ainsi vous puissiez toujours mieux connaître Dieu, et ainsi connaissant mieux Dieu, que vous puissiez mieux l'aimer, et mieux, en l'aimant mieux, eh bien vous aurez cette joie profonde, cette joie intérieure. Voilà, donc maintenant, eh bien dans une vingtaine de minutes, donc ça sonnera, nous aurons la messe solennelle, donc à l'église. Messe donc aujourd'hui du 9e dimanche après la Pentecôte. Et c'est vrai, alors pour les Bretonnes, c'est vrai qu'ensuite c'est Sainte-Anne aujourd'hui, hein, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas en Bretagne, donc ce n'est pas une fête de première classe ici. Alors ce n'est que le 9e dimanche après la Pentecôte.